Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Je m'appelle Patrick Béja et je suis l'animateur de cette fantastique, merveilleuse, formidable émission, selon ma maman. Et je suis très heureux de vous accueillir. On a plein de choses hyper intéressantes dont on va parler aujourd'hui. On va couvrir l'interface de la PlayStation 5 qui recèle de nouveautés inattendues et potentiellement assez innovantes qui vont changer la manière dont on appréhende les jeux auxquels on joue. Rien que ça, on va aussi parler bien sûr de The Event qui bat encore des records cette année. Et on va avoir les jeux auxquels on joue en ce moment et plein de petites news et rumeurs en plus. Et pour nous aider à faire tout ça, j'accueille non pas un, non pas deux, mais trois intervenants de renom et de talent. On va commencer honneur aux dames avec Eva alias Salty Swan. Comment ça va, Eva? Est-ce que tu es en forme?
Oui, ça va et merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là pour l'émission.
Écoute, je suis content que tu sois content. Si tu me disais « Ouais, en fait, ça va pas trop bien, ça me fait un petit peu chier, j'ai l'impression de perdre mon temps », ça serait embarrassant. Mais je suis content, ça a l'air de plutôt te plaire, c'est cool. T'as suivi l'interface de la PlayStation 5? T'as plein de choses à dire. Bof, ok. Toi, t'es une e-sporteuse.
C'est plus PC que console, ouais. Donc...
T'inquiète pas, je vais te convaincre que ça va changer le jeu vidéo, tout ça. Dans une minute, tu vas voir, ça va être magique. On a aussi, évidemment, quand on parle de The Event, il faut qu'on ait un représentant. Alors, je ne sais pas s'il représente The Event, mais en tout cas, il se représente lui-même alors qu'il était à The Event. C'est l'ami AlphaCast qui se joint à nous encore une fois. Ça va, Sébastien?
Ça va super bien. Je récupère encore du The Event, mais doucement, mais ça va, l'énergie revient peu à peu.
Oui, je t'ai demandé si tu voulais participer à l'émission après The Event. Je me suis dit, il va être mort, il va pas être assez en forme, et tu m'as dit que t'étais partant quand même, donc un grand merci
pas
à toi.
Avec plaisir.
Et tu nous raconteras comment t'es venue l'idée de génie de faire l'inverse de la dernière fois comme Donation Goal et de te transformer, si j'ai bien compris, en Bayonetta d'ici un an, c'est ça?
Oula.
Cosplay 2021, AlphaCast Bayonetta, moi je pense que c'est inévitable. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, il avait promis de se raser les cheveux. C'était l'année dernière, hein, le mode M&M's.
Les deux dernières années.
Ouais. Les deux dernières années. Et cette année, il se laisse pousser les cheveux. Donc, je pense qu'on peut exiger le cosplay Bayonetta pour Halloween 2021.
Gérald,
c'est vrai que t'as déjà les cheveux blancs quasiment, donc ça pourrait fonctionner. Et on a aussi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'a jamais été dans l'émission, mais avec qui j'ai déjà fait un épisode, mais de mon émission anglophone, qui s'appelle Pixels, qui est un autre Sébastien, mais Sébastien Bénard, ancien de Motion Twin, développeur bien connu de Dead Cells. Je dis ancien parce que après l'incroyable aventure de Dead Cells, tu as décidé de quitter Motion Twin et de te lancer en complètement indépendant. Maintenant, donc, tu es 100% indépendant. Là. Déjà que Motion Twin, ce n'était pas une grosse boîte.
Oh, ça s'est pas passé de manière aussi rose, mais dans l'idée, ouais, c'est ça. Je me suis lancé aujourd'hui, puis j'avais quelques idées de projets que j'avais envie de faire, donc c'était l'occasion, quoi. Et puis merci aussi de m'inviter dans l'émission, c'est hyper cool, quoi.
Mais avec un grand plaisir. Alors, avant de se lancer dans ces histoires d'interface de PlayStation 5, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, à savoir spécifiquement Syriac, GG, je me demande si c'est ses initiales ou une félicitation pour l'émission, Martin Demély, Michael Willio, François Vanhove, Florian, Nicolas Corbeau, Sidonie, Kassim Ketfi et Lucas Tarasconi, ainsi que les producteurs officiels de l'émission, Grégory Sata, Lancelot Davizard et Bazou42. Merci à vous tous. Alors, on se lance tout de suite avec cette interface PlayStation 5 qui a été révélée enfin. Et ça peut paraître un petit peu dérisoire, genre on a le logo, l'interface, c'est des trucs vraiment annexes qui sont pas si intéressants que ça. Mais en fait, si, moi je pense que l'interface, c'est un élément hyper important parce que l'interface d'une console, ça peut être l'occasion d'introduire des nouveautés un petit peu différentes. Et c'est le cas cette fois-ci. Alors je vais vous proposer de mentionner, enfin d'expliquer les nouveautés qui m'ont paru intéressantes sur cette révélation d'interface et vous allez me dire si moi je suis un peu trop enthousiaste ou pas, mais il y en avait trois. Commençons par la première. La première, c'est un élément d'interface qui est présent quand on est en jeu. On peut appuyer sur le bouton PlayStation et ça amène des cartes qui sont des différents éléments, informations sur l'interaction qu'on a avec le jeu, dont des cartes d'activité. Et ces cartes d'activité, c'est des choses qui vont vous indiquer des éléments sur ce que vous êtes en train de faire en jeu ou ce que vous pourriez faire en jeu. Par exemple, vous êtes dans un niveau et la carte pourrait vous dire « Ah ben, il y a dans ce niveau un boss à battre et vous êtes à, allez, 45% du niveau, il vous reste 20 minutes avant d'arriver à la fin du niveau ». Il pourrait y avoir aussi, vous avez des bananes à collectionner et vous avez collectionné 3 sur les 5 bananes, vous pouvez les récupérer en quelques minutes qui restent. Et vous pouvez, en plus de ça, avec ces cartes, vous transporter directement à l'activité qui vous reste à faire et que vous voulez faire à ce moment-là. Et je pense que c'est une innovation assez intéressante, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément énormément de temps pour jouer et qui sont des joueurs, on va dire, qui ne sont plus... bon, je ne vais pas tourner autour du pot, qui sont des gens qui ont une famille, des enfants et qui n'ont pas forcément 4 heures de session à chaque fois et qui n'ont pas envie de se perdre complètement dans un jeu et qui veulent une activité spécifique à faire, un quart d'heure, hop, on y va, on sait ce qu'on va obtenir et c'est terminé. Alors, évidemment, on pourrait se dire que ça tue la créativité. Mais ça tue la créativité des joueurs, en fait, et la découverte, etc. Mais il faut bien se rendre compte que c'est entièrement à la disposition des développeurs. C'est les développeurs qui vont choisir comment ils vont faire et comment ils vont implémenter ce genre de choses. Si un développeur pense que pour son jeu, c'est pas bien d'avoir ce type de fonctionnalité, eh ben, ils n'ont pas l'obligation, a priori, de l'implémenter s'ils ne le souhaitent pas. L'autre élément qui est un petit peu, c'est un petit peu dans la même discussion, donc je vais le dire en même temps, c'est l'aide en jeu. C'est-à-dire qu'en plus de ces activités, le jeu pourra vous indiquer comment aller, enfin, soit des petits indices subtils sur la manière dont il faut procéder pour trouver les éléments en jeu pour compléter l'activité. Par exemple, si on peut, il peut vous dire la banane, elle est près du début du niveau. Ou alors, regardez tel bâtiment, il y a peut-être un truc à découvrir là-dedans. Ou alors, carrément, vous montrer une vidéo qui va vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour compléter cette activité en jeu, cette partie du jeu. Et là encore, je crois que c'est une idée qui peut à la fois être séduisante pour certains et catastrophique pour d'autres. Je vais... Du coup, me retourner vers Eva, je lui disais, c'est un truc, même dans l'interface de la console, qui pourrait être intéressant pour les joueurs qui sont pas console dans le concept. Est-ce que c'est des éléments d'interface et donc des éléments de design de jeu qui pourraient t'intéresser tout ça ou tu trouves que c'est superflu ?
Je ne sais pas si moi je m'en servirais, mais je sais que rendre les jeux plus accessibles, ça conduit toujours à des débats, mais je pense que c'est toujours positif puisque ça s'adapte aussi au fait que le jeu est devenu plus mainstream. Donc effectivement, quand on a moins de temps pour jouer ou pour les gens qui sont plus casus, ça pourrait être intéressant.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait. Il y a des gens qui seront peut-être pas très fans de l'idée, mais il y a aussi des gens qui seront assez contents d'avoir ce type de fonctionnalité, notamment comme j'en parlais tout à l'heure. Mais du coup, demandons à un développeur. Toi, Sébastien, c'est un truc qui te paraît intéressant ou c'est une contrainte supplémentaire pour le développement ?
Je pense que je vois ça de plusieurs côtés. J'ai mon côté papa où je me dis, je suis pareil. Tu vois, quand en ce moment, je joue à Death Stranding et c'est sûr que j'ai pas le temps nécessaire pour explorer le jeu comme je voudrais. Donc, forcément, de temps en temps, j'aimerais bien avoir un peu être aiguillé un petit peu. Donc je trouve que ça va dans le bon sens, tu vois, ça permet de justement de, comme vous disiez tous les deux, de faciliter, enfin d'améliorer un peu le temps de jeu, d'optimiser un peu le temps de jeu. Ce qui est dommage, en fait, je trouve il y a deux pour moi deux petits versants qui sont un peu dommage dans ce truc-là, c'est que ce qui brille, ce qui peut être vraiment intéressant dans un jeu, ce qui peut faire briller un jeu, c'est son level design ou sa manière d'amener l'information, tu vois, correctement, de guider les joueurs. De savoir orienter les gens vers la prochaine activité, justement, sans avoir nécessairement besoin de mettre une flèche ou un indicateur carrément en vidéo ou peut-être.
De le faire dans le design du jeu et de ne pas avoir un truc qui dit « voilà », quoi.
Ça, disons que ça fait partie du travail donc, du développeur, du level designer, du graphiste, du sound designer, même des fois. Et c'est plus gratifiant, souvent, pour l'utilisateur de découvrir les choses en ayant l'impression qu'il est tombé dessus par lui-même, tu vois. Alors que très artificiellement, on l'a bien guidé. Et donc ça peut être un petit peu, ça, je trouve, ça peut un peu amoindrir cette expérience. Mais bon, là, c'est le puriste de level design qui te parle, tu vois. Et le deuxième truc que je vois un peu gênant, c'est que par contre, là, je me méfie toujours un petit peu, en fait. Vu que je suis indépendant, je peux plus en parler facilement aujourd'hui. Mais je me méfie toujours un petit peu, en fait, des fonctionnalités de ce style-là. Alors à l'époque où je faisais du mobile les deux plateformes principales. Si tu veux, quand tu veux apparaître sur le store et être présent d'une manière ou d'une autre, mis en avant dans les stores, souvent ce qui est demandé, c'est que le constructeur veut que tu aies mis en place ces fonctionnalités. Donc je ne pense pas que ça soit si optionnel. Tu vois.
Ouais.
Je me trompe peut-être, mais très intuitivement, tu vois, je ne vois aucune raison pour laquelle Sony ou n'importe quel consolier, d'ailleurs, hein, ce n'est pas spécifique, ferait une fonctionnalité un peu... Si tu les fais, on te mettra en avant. En tout cas, ouais. Ça fait partie de la checklist qui fait que tu as plus de chances d'être mis en avant.
Tu t'assois dans une cave, tu sais, à New York, dans le quartier italien, ils te regardent, ils te disent avec un gros cigare « ça serait quand même dommage de ne pas avoir la fonctionnalité, vous risqueriez de ne pas être aussi mis en avant dans le store. » Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vois bien, effectivement, ce genre de discussion.
Ça a déjà eu lieu sur beaucoup de fonctionnalités de ce genre-là, et ça fait partie. Et c'est normal, il faut appuyer. Comment dire, si le jeu l'implémente, ça donne l'impression que c'est donc utilisé par les jeux. Donc ça, c'est une bonne image de la fonctionnalité généralement. Donc forcément, ils ont tout intérêt à l'encourager.
Ouais.
Le corollaire, c'est que ça risque de pousser les gens à devoir l'implémenter un peu dans tous les sens. C'est pas forcément de la meilleure manière, quoi.
Alpha, est-ce que toi, ça te désespère ou ça te plaît, ce type de fonctionnalité qui change ? Je disais, ça change un peu l'approche qu'on a des jeux, et ça pourrait effectivement, en fonction de la manière dont c'est implémenté, bien ou mal, changer un peu cette approche. Ouais.
Sur les images qu'on voit, moi j'ai l'impression que ça remplace carrément le menu du jeu, en fait. Enfin, sur pas mal d'aspects, j'ai l'impression que ça vient carrément remplacer... certaines options, et par exemple tout le système de pour rejoindre un groupe dans un jeu, dans un lobby. Moi je sais qu'il y a quelque chose qui me rend fou quand je suis sur n'importe quelle plateforme, c'est quand dans un jeu tu peux inviter quelqu'un dans le lobby de la plateforme, et en fait c'est pas dans le jeu directement, c'est pas dans le groupe du jeu. Là, si le système permet directement de se rejoindre dans les jeux vraiment simplement en un button press, c'est pas mal. Après, je me dis que pour des jeux qui seront sur PlayStation et d'autres plateformes, bah, ça va être un boulot d'intégration assez fastidieux, parce qu'ils vont devoir, je pense, un petit peu convertir le jeu à toute l'interface PlayStation sur les menus, etc., j'ai l'impression, en plus des menus qu'ils auront pour les autres plateformes, parce que de ce que j'en comprends, j'ai l'impression que beaucoup de features importantes du jeu sont liées à cette interface PlayStation, en tout cas sur le jeu présenté. Après, il faudra voir comment c'est intégré. Moi, je pense par exemple à la fonctionnalité de « il vous reste ce boss à faire, vous y êtes dans tant de minutes ». Bon, dans le remake de Demon's Souls, je ne suis pas sûr que ça y sera. quelque chose me dit que ça ne va pas y être, quoi. Et je ne pense pas que ça devrait y être pour ce genre de jeu. Donc oui, pourquoi pas pour des jeux qui s'y prêtent. Mais surtout pas l'appliquer à tous les jeux, clairement.
Ouais.
Les jeux ne s'y prêtent vraiment pas. Hein. Ouais.
Je crois qu'il faut espérer, effectivement, que ça ne sera pas obligatoire. J'espère que les gens de Sony sont conscients du fait que ça ne doit pas être intégré à tous les jeux. Un truc auquel je pense quand même, c'est que ces fonctions d'aide, mine de rien, on les a... quoi qu'il arrive, dans notre téléphone qui est dans notre poche. Et je pense que tu parlais de Demon's Souls, c'est un bon exemple. combien de joueurs se diraient « Ah non, il faut qu'il y ait des jeux où il n'y ait pas ça » avant de, d'aller chercher sur YouTube comment passer tel boss, les techniques pour tel boss. Enfin, je veux dire, on a tous dans notre vie été regarder comment finir cet élément de jeu sur YouTube ou ailleurs, et on a dû se taper 60 000 vidéos de 30 minutes au milieu desquelles on voulait chercher tel ou tel truc. Et du coup, je me dis, de cette manière, c'est Sony qui intègre un truc qui est déjà de fait dans notre quotidien de joueur. Donc,
Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, dans le sens où, dans des jeux comme Demon's Souls, littéralement, le nom d'un boss, ça peut être un spoil majeur, quoi. Donc, si tu ouvres ton interface et tu fais Dark Souls 1 et tu fais n'importe quel jeu un petit peu comme ça qui peut être un peu hardcore et qui a des boss fights dramatiques, j'ai envie de dire. Ouais. Et tu vois le nom du jeu qui disent « Alors, le prochain boss, il est dans 20 minutes et c'est votre père, bon courage. Enfin, » je suis pas sûr que
non,
ce
c'est
soit...
Sûr.
Parce que là, bon, pour Little Big Adventure, ça s'y prête bien. Mais je pense clairement pas que ce sera pas adapté à tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un rêve pour tous les Achievement Hunters. Tous les gens qui font la chasse aux hauts faits, ils vont adorer la fonctionnalité parce qu'en plus, tu as vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est déjà présent dans l'environnement PS4. Moi, je suis nouveau. Hein. La PlayStation 4, je l'ai eu il y a quelques mois, hein, donc je suis nouveau. Mais c'est sûr que d'appuyer sur un bouton et tu vois les hauts faits que tu peux faire à l'instant T et ce que tu dois faire pour les faire, etc., ça, c'est vachement cool, ça. Pour platiner les jeux, ça va aider.
Je t'avoue que je suis tellement peu fan d'achievement que je sais même pas s'il y a une liste. Enfin, je sais qu'il y a la liste, mais je sais pas à quel point on peut voir les détails dans la liste. Mais d'une manière générale, je pense que oui, j'espère vraiment que quand ça peut nuire à l'expérience de jeu, ça sera au minimum, ça sera contrôlé quoi par les développeurs vraiment. Mais en gros. Ça, couplé au fait qu'avec le SSD, on peut vraiment rentrer dans un jeu et dans une partie du jeu à n'importe quel moment. En fait, on a un petit peu, j'en parlais dans la vidéo que j'ai fait sur le sujet sur YouTube, on a un petit peu déjà cette expérience avec la Switch. Vous voyez, ces technologies hyper modernes, on a bien besoin de la next-gen. Mais comme la Switch, il n'y a pas de disque dur classique, c'est que de la mémoire du SSD, en fait. Un peu plus lent, mais les assets sont moins lourds, donc ça charge relativement vite. Tu allumes ta Switch, 10 secondes plus tard, tu es en jeu. Et avoir cette expérience avec les nouvelles consoles next-gen, avec en plus la possibilité d'aller dans n'importe quelle partie du jeu, moi, je me prends à rêver de cette expérience, surtout étant donné que j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Moi, quand j'ai une session... Il y a je ne sais combien de fois où j'avais 20 minutes pour jouer, je me suis dit, je ne vais pas allumer la console parce que ça ne sert à rien, quoi. Le temps d'arriver en jeu, il restera plus que 5 minutes. Donc ça, plus le fait que je veux faire telle activité, je peux y aller rapidement, je pense que c'est l'aspect positif du truc. Mais oui, espérons que ça ne gâche pas non plus le plaisir des jeux. Il y a une autre fonctionnalité qui est sympa, c'est le streaming. Dans le groupe qu'on peut rejoindre avec d'autres joueurs, avec des amis, on a bien sûr la voix qui est partagée, mais on peut aussi partager en streaming sa partie avec quelqu'un d'autre. Donc, on peut streamer ce qu'on est en train de faire avec l'autre personne. Je me dis, ça ne change pas forcément énormément par rapport à la voix, mais ça peut, en fait, donner une relation différente en se disant, on joue à un pote, lui, il joue à son jeu, moi, je joue à mon jeu, et on est un petit peu plus ensemble, quoi. Ce n'est pas tout à fait comme si on est sur le même canapé, mais c'est un petit peu plus de présence. Même si on ne joue pas au même jeu, ça peut être cool. On a l'image qui peut être image dans l'image ou alors collée sur le côté. C'est une fonction qui pourrait être sympa. On demande dans la chatroom si c'est pas déjà le cas sur PS4. On peut regarder ce qui est en train de faire un ami, mais on peut pas l'intégrer à notre partie. Enfin, on peut pas avoir une image dans l'image. Là, dans cette fonctionnalité, on est nous en train de jouer et on voit un petit incrusté dans notre image ce à quoi l'autre est en train de jouer. Donc, c'est un petit peu différent. Donc voilà, il y avait quelques autres questions que j'avais vues. Et je ne les retrouve plus, je ne sais plus, mais... Ah oui, le Quick Resume fonctionne également sur PS5, comme il fonctionne sur Xbox. On peut passer d'un jeu à l'autre très rapidement. Alors, visiblement, ça coupe beaucoup, il y a des bugs. Je vais débrancher un truc et je reviens tout de suite. semblerait qu'il y ait une connexion qui marche mieux que l'autre, donc j'espère que là, ça va un petit peu mieux marcher. Vous êtes toujours là, dans le Discord ?
Toujours.
Toujours, oui, très bien. Ok. Alors, on va passer peut-être au sujet suivant, qui était quoi ? Est-ce qu'il y a encore des histoires avec la PlayStation 5 ? Ah oui, bien sûr. Le fait qu'on puisse enregistrer des... pour les histoires de spoilers, tiens, pardon, on revient sur ce sujet. Pour les histoires de spoilers, en fait, ils ont beaucoup insisté sur le fait que quand on va partager des images ou quand on va arriver sur l'un de ces éléments qui va aider au jeu, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient très au courant du problème des spoilers et que donc, ils vont prévenir s'il y a un élément qui est un spoiler avant qu'on puisse afficher l'astuce ou même qu'on puisse partager, quand on partage un screenshot, ça va prévenir si c'est un truc qui peut être spoiler. Donc, ce que ça me dit, c'est que ils sont conscients de ce problème. Donc, j'espère que ça sera pas trop problématique, quoi, justement.
Il y a un truc qui m'interroge, moi, depuis tout à l'heure, en fait. Si tu veux, quand tu as décrit le truc, j'ai réfléchi en mode développeur de me dire « Ouh là là, comment t'implémentes ça, quoi ?» Et ça fait beaucoup penser aux achievements à l'époque où le concept même a été inventé et qu'on a commencé à le trouver à droite à gauche. C'était à cette époque-là, si tu veux, c'était pas du tout unifié entre les plateformes, et ça l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. La manière dont les achievements sont gagnés dans les jeux et tout ça, ou sont distribués, et même la manière technique de le faire, tu vois. Et je me dis, si tu veux, en tant que dev, tu es déjà amené à créer des interfaces de tutoriel, de présentation d'activités, de progression, tout ça dans les jeux. Il n'y a qu'à regarder un jeu Ubisoft aujourd'hui, les interfaces pour mettre ça en place sont quand même assez complexes et bien lourdes, quoi. Tu me dis, si tu commences à implémenter ça pour la PlayStation, ça va être hyper redondant. Tu vas être obligé de toute façon de le refaire en plus, en redondance à l'identique avec tes propres systèmes, parce que quand tu vas faire ton jeu sur Xbox ou sur PC, tu n'auras pas les interfaces PlayStation pour montrer ces aides et tout. Et je me dis, quelle quantité de boulot monstrueuse pour le dev à la fin, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça peut poser plus de problèmes aux développeurs, mais soyons sérieux, les développeurs, c'est pas la préoccupation qu'on a aujourd'hui. Nous, on pense qu'aux joueurs, les développeurs, on s'en fout.
Oui, bien sûr.
Non, mais oui.
T'as 100% raison, quoi. Mais oui.
Non, mais je comprends.
Ça me semble. L'idée est bonne, mais je pense que ce qui serait top, tu vois, si tu veux. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément leur intention ni leur but. Mais ce qui serait top, c'est que ce genre d'idées, en fait, soient un peu unifiées entre les consoles, tu vois. Mais que c'est l'expérience utilisateur, faudrait pas qu'elle soit bancale d'un côté et mieux de l'autre.
J'espère effectivement que... à vrai dire, bon, il n'y a pas ces fonctionnalités. Ils ont un petit peu pris le monde par surprise. Et ces fonctionnalités ne sont pas présentes sur les autres consoles. Moi, j'espère qu'elles vont être implémentées si ça se passe bien, parce que je pense que c'est un vrai plus. Mais oui, il faudrait espérer qu'il y ait une certaine unification, peut-être même au niveau des middleware comme Unreal Engine, etc. On en parle dans la chatroom, d'ailleurs. Mais ou Unity, tout ça, si ça peut unifier, c'est vrai que ça pourrait aider, quoi. Deux petits détails en plus, il sera possible d'enregistrer une conversation audio et de l'envoyer à Sony pour modération, comme on peut le faire avec... Enfin, ils peuvent déjà voir les conversations par texte, mais c'est vrai que sur console, ça ne se fait pas trop. Enregistrer une conversation audio, ça ne sera pas enregistré par défaut, mais même si je suis sûr que certains pourront abuser de la fonctionnalité, moi je crois que c'est pas forcément une mauvaise chose, étant donné la toxicité de certains dans les jeux en ligne et quand on est en conversation, je crois que ça serait pas mal d'avoir... Oui, pardon, Alpha ?
Je sais pas de quoi tu parles.
Je parle du tout. Tu n'es pas du tout concerné. Et autre chose, on ne peut plus acheter les jeux PS3, Vita ou PSP sur le store PlayStation. On peut les acheter directement sur les consoles, mais plus sur le store général, en ligne, enfin, je veux dire sur le site. Donc voilà, désolé pour vous si vous êtes encore en train d'acheter des jeux Vita ou PSP ou PS3. On peut toujours, j'insiste, on peut toujours les acheter sur la console en question, c'est juste sur le store en ligne. Et normalement, l'interface devrait être beaucoup plus rapide parce qu'ils vont précharger les éléments du net. Enfin, l'interface est toujours lente et saccadée sur PlayStation 4 et c'est infernal. Là, ça devrait mieux aller. Donc, espérons, on croise les doigts. Réponse dans quelques semaines. Parlons maintenant de The Event 2020 qui a battu encore son record de l'année dernière qui était un record de l'année d'avant. The Event, je pourrais expliquer ce que c'est, mais je vais peut-être laisser Alpha qui participe depuis un moment nous expliquer de quoi il s'agit pour les deux dans le fond qui n'auraient pas suivi et qui ne savent pas ce qu'est The Event. Tu peux nous expliquer ça ?
Oui, bien sûr. The Event, c'est un événement caritatif qui est à la base une initiative de Zerator et Dash. Donc Zerator qui est un streamer très populaire et Dash qui travaille directement avec lui. Et c'est un événement caritatif chaque année qui vise à aider différentes associations sur des causes humanitaires, pour la recherche ou pour d'autres sujets. Cette année, on était tous réunis pour collecter des fonds pour Amnesty International. Donc, je dis tous réunis parce qu'en effet, The Event, c'est avant tout un rassemblement des principaux streamers français, des streamers avec avec les plus grandes communautés qui sont pendant un week-end. Ça a coupé ?
Oui. Non, c'est bon, non, c'est bon.
tous réunis sur un week-end pour collecter un maximum de dons pour des causes variées chaque année. Voilà.
Ouais, la manière dont ça se passe, c'est vraiment un peu particulier. C'est-à-dire que, comme tu dis, Zerator et Dash réunissent 20-30 streamers différents, quelque chose comme ça.
55, je crois que c'est 55 cette année.
55, ok.
Comme l'année dernière.
L'année dernière, c'était à peu près ça aussi.
D'accord. Donc, quelques dizaines de streamers qui sont chacun, eux, en train de streamer à leur communauté et de les encourager à donner pour la cause, enfin pour l'association qui est choisie l'année en question par les organisateurs, donc Zerator et Dash. Et cette année, donc, il y a eu... Et donc, chacun fait la fête, ça fait un événement sur tout Twitch et même ça déborde de Twitch, évidemment. Et c'est vraiment une ambiance festive, ça fait penser à une LAN pour les anciens qui se souviennent des LAN et de ce que ça donnait, et des LAN parties. Et c'est un week-end où j'ai l'impression que le monde du jeu vidéo en France est collé à son écran. Bon, moi, le petit était malade et c'était l'apocalypse ici, on était tous malades, enfin bref. Donc, je n'ai pas vraiment pu suivre. Mais j'ai l'impression que c'est tout le monde du jeu vidéo qui est collé à son écran. Et tout le monde fait... disons que c'est un petit peu le meilleur de Twitch, quoi. Tout le monde est pote, tout le monde fait la fête, tout le monde fait des donation goals complètement débiles. On se marre en permanence. Bon, toi, tu y étais, donc tu peux peut-être mieux nous en parler. C'était quoi l'ambiance ? Ça se passe comment ? Est-ce que c'était différent cette année, peut-être, avec le virus ?
Forcément, c'est toujours un peu différent avec Covid, parce que... Voilà, on peut pas se prendre dans les bras, on est toujours obligé d'avoir le masque, ça rend, ça instaure forcément une distanciation. Mais d'un autre côté, c'était celui où on était le plus proche, puisqu'on était tous dans un hôtel cette année. On a eu une sorte de bulle NBA, comme ce que font les sportifs quand ils ont des événements, c'est-à-dire qu'ils s'enferment tous dans un hôtel. Ils passent des batteries de tests et en gros ils se confinent dans un hôtel quand il y a des événements. Ben là c'était pareil, tous les streamers, tous les participants aux events ont fait un test CPR quelques jours avant le event pour vraiment nullifier les risques de contamination. Ce qui fait qu'on était tous dans le même hôtel, donc en fait on était vraiment constamment ensemble. Donc au final, c'était un The Event où il y avait une distanciation, mais mine de rien, c'est le The Event où, je pense, les streamers ont le plus stream, très clairement, et en plus, où on s'est le plus vu, forcément, vu qu'on était tous les jours ensemble, et qu'il n'y avait pas de « bon, bah, je retourne à l'hôtel » ou « je retourne à la maison » et ensuite « je reviens demain ». Donc là, c'était différent comme ambiance. Mais globalement, non, l'ambiance est très positive, parce que tout le monde se retrouve là pour défendre cette cause et pour encourager les gens à faire des dons pour quelque chose de positif, pour quelque chose qui est uniquement positif, et c'est que des bons sentiments globalement, et vraiment forcément il y a une bonne ambiance, et il y a pas, même si forcément certains streamers s'apprécient pas, il y a toujours des choses comme ça, des petits du passif de ci de là. tout ça, c'est oublié le temps de ce week-end. Et du coup, ça fait vraiment du bien parce qu'en effet, on retient que le meilleur de Twitch et ça donne un super bon exemple. Et c'est, mine de rien, c'est un peu un exploit parce que c'est unique quoi, comme événement. Qui rassemble autant de streamers, entre guillemets, tête d'affiche. Et c'est rarissime. Quand on regarde aux US, qui est un marché beaucoup plus perso et compétitif, à un événement comme ça, avant que ça arrive, je pense qu'il peut se passer beaucoup de temps parce que ouais, tous les streamers top US sont très, très compétitifs. C'est pas la même ambiance. Donc, petite fierté, je pense, pour Zera et ses équipes d'avoir organisé tout ça.
Hein. Ah oui, il y a de quoi. D'autant plus que c'est des records qui sont pas juste des records français. Je crois que le record de dons est de... Ouais. Comment dire ? L'événement est unique et la quantité de dons est record mondial. Quoi. On ne l'a même pas dit, mais c'était effectivement pour Amnesty International. 5,7 millions d'euros récoltés. L'année dernière, il y avait Oscar Le Maire, notre ami, qui a fait un petit graphique. L'année dernière, c'était 3,7 millions. L'année d'avant, c'était 1,1. Et la première année, en 2017, c'était 0,5, donc 500 000 euros quand même, ce qui était déjà pas mal. Ouais, j'imagine que c'est devenu une machine énorme, quoi.
Ouais, clairement, et c'est sûr que là...
Enfin, organiser, à les responsabilités, tu vois. Zerator, ouais. C'était un gros streamer. Enfin, Edash, Zerator, c'était un gros streamer, mais là, il a un truc sur les épaules, et j'imagine que vous le ressentez aussi.
Le truc sur les épaules, c'est plus... c'est Dash et Zera qui le ressentent forcément... Et c'est vrai que l'événement, du coup, représente beaucoup pour beaucoup de streamers. Et chaque année, il y a un peu ce côté pour des streamers un peu plus, entre guillemets, naissants qui commencent à percer. Il y a toujours ce fameux « est-ce que je vais être invité aux events ?» Et ça devient vraiment le... C'est en train un petit peu, d'évoluer dans quelque chose de délicat à contrôler parce qu'il faut faire... pour les invitations, à chaque fois, c'est... un grand sujet et l'événement
qui est invité,
massif.
Qui a le ticket en or.
Exactement, l'événement est tellement massif et mine de rien, l'événement, il y a toujours aussi ce petit débat de, il y a certains streamers, enfin pas certains streamers, c'est que voilà, certains y voient une énorme opportunité parce que ça met en avant et vont essentiellement penser à ça avant de penser à la cause à défendre. Mmh. Et forcément, il y a toujours ce petit ce côté qui est un petit peu pénible, mais qui est inévitable avec des événements aussi massifs caritatifs. Et en effet, je pense que par exemple, les créateurs du Téléthon ont eu un peu le même cheminement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Ouais. Je pense que dès que tu crées un événement aussi massif caritatif, il y a une évolution et ça vient avec des choses excellentes, mais aussi des choses plus délicates à gérer. Donc en effet, c'est un sacré animal. À gérer, rien que pour le choix de l'association, je sais que ça doit être un casse-tête pour Dash et Zera chaque année.
Ouais. Ouais, l'année dernière, ils ont eu plus de 600 associations qui ont fait des dossiers pour qu'ils les choisissent.
Ouais. Ah oui, ouais. Non, c'est clair que ça doit être vraiment compliqué. Hein.
Et si c'était pas clair, ils changent à chaque fois, chaque année, c'est une nouvelle association. Donc, ouais, c'est vraiment pas évident. L'ambiance sur place, est-ce que tu peux, maintenant qu'on a bien posé les bases, juste pour conclure, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est ? Parce que nous, évidemment, on voit ça par le stream et on a l'impression que c'est un joyeux bordel peut-être, mais vraiment, j'insiste plus sur le joyeux que sur bordel, ça a l'air super sympa, tout le monde a l'air de s'amuser, mais comme des fous. Comment ça se passe de l'intérieur ?
De l'intérieur, c'est un peu la course, constante. Dès qu'on stream pas, on culpabilise. Parce
ah oui.
Si, il faut que je sois en live ce week-end, il faut qu'on donne tout niveau énergie.
C'est 48 heures non-stop, hein.
55 heures.
55
heures au total.
Ils ont imposé des heures de sommeil, je crois, justement.
Alors oui, on n'a pas le droit de faire un live de plus de 24 heures. Enfin, on n'a pas le droit de s'exploser la santé à être en live constamment. Et oui, il y a des règles, il y a un quota minimum d'heures aussi à faire quand on participe aux events. On peut pas venir aux events et streamer une heure et au revoir, hein, ça c'est sûr. Et oui, il y a des règles de ce côté-là. Et globalement, globalement l'ambiance quand on y est aux events, c'est en effet, il faut stream beaucoup Il y a aussi, alors il y a un équilibre assez particulier à essayer de trouver, c'est que il y a beaucoup de streamers qui organisent des choses, qui vous invitent à faire des trucs. Par exemple, il y avait un quiz, il y avait question pour un streamer avec Étoile et Samuel Etienne cette année. On avait aussi le quiz de JDG. Il y avait le mariage de Magla et Gilles. Il y avait plein de choses différentes comme ça. Et moi personnellement, j'ai participé à ces trois choses-là, mais ça fait que tu stream pas pendant que tu fais ça. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre participer et faire des choses avec les potes, mais aussi streamer et assurer le stream de ton côté. Et en effet, faut vraiment jongler, quoi. C'est un vrai jonglage. T'es constamment filmé aussi parce qu'il y a des caméras d'ambiance dans tous les sens. Dès que tu passes près d'un PC, tu peux être sûr qu'au moins 6 caméras sont en train de te filmer d'un côté de la salle ou de l'autre, chez un streamer ou un autre. Donc en effet, tu es constamment en alerte, quoi, parce que tu es constamment en live. Donc faut faire attention. En plus, là, avec le Covid, faut faire attention à toujours mettre le masque, à respecter les gestes barrières, etc. C'est une assez grosse discipline à avoir quand même. Et globalement, oui, c'est un joyeux bordel. T'as très bien résumé, parce que tout le monde est à fond. Ça hurle dans tous les sens. Dès qu'il y a un don énorme, ça hurle. c'est des challenges aussi. Dès qu'il y a un gros don, il y en a qui font des challenges. Par exemple, Juice, tous les 500 euros, ils faisaient 10 pompes. Moi, je faisais des Jojo poses derrière des streamers au hasard, désignés par les gens qui faisaient des gros dons. Enfin, on oublie toute notion de cringe ou de trucs gênants. Faut y aller, quoi. C'est le week-end où on fait les clowns, et si ça fait marrer, on le fait, et si ça nous fait marrer surtout, on le fait. Donc clairement, il y a un peu ce sentiment de let's go, on se lâche, on se fait plaisir, tout en évidemment toujours en étant dans le respect. Hein. On n'explose pas les caméras avec des battes de baseball, hein, un domingo. on fait gaffe, mais c'est vrai que c'est globalement, c'est un petit peu le. Quand t'es plus aux events, tu peux pas restreamer comme quand tu étais aux events. C'est impossible, en fait, parce que l'ambiance qu'il y a sur place, d'ailleurs, les gens qui étaient à distance cette année, comme Locklear, Squeezie, Gotaga, ils nous l'ont dit, oui, c'est bon.
C'est cool, pas la même chose, quoi.
Mais c'est pas la même chose quand il y a les paliers qui sont atteints. Eux, ils le vivent tellement différemment. Ils sont chez eux, ils entendent juste sur Discord des voix se faire écraser complètement par le compresseur Discord. Et ils disent ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ils voient les jauges et ils comprennent. Mais sur place, c'est une ambiance exceptionnelle, surtout le dimanche. Le dimanche, moi, c'est mon jour favori parce qu'à chaque fois,
tout le monde est crevé, c'est ça?
Il y a tout le monde est crevé et tu vois qui a réussi à gérer son endurance, c'est-à-dire en essayant de dormir un minimum sur les deux jours d'avant. Et c'est là où il y a les records de dons à chaque fois, quoi. C'est un truc de fou ce qui se passe le dimanche en termes d'ambiance et de dons de la part des spectateurs. C'est exceptionnel. Et à chaque fois, il y a une ambiance folle. Après, cette année, c'était énorme, mais je n'ai pas non plus ressenti le côté « Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» qu'on a pu avoir l'année dernière ou l'année d'avant, quand on a dépassé le million la première fois. Et l'année dernière, quand on a explosé le record et qu'on est allé à 3,5 millions, j'avais un peu moins ce côté-là, mais c'est peut-être parce qu'on a battu le record différemment. Là, le record, on l'a battu direct en ajoutant la vente des t-shirts. Du coup, il y avait un peu moins ce build-up. C'est genre, d'un coup, il y a eu un ajout énorme avec la vente des t-shirts. Et du coup, c'était un peu différent. Mais en plus, on commence à rentrer dans des chiffres qui n'ont pas de sens, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quoi.
Ouais, c'est vrai que la différence entre 3,5 millions et 5,7 millions, elle est peut-être un petit peu moins facile à appréhender que quand tu commences à dépasser le premier million, quoi. Mais ouais. Donc, bon, écoute, c'est un compte rendu hyper sympa. J'imagine qu'à la fin, tout le monde est épuisé. On rentre juste chez soi et c'est genre, bon, ok, salut les gars, à l'année prochaine, c'est terminé, quoi.
Ouais, quand tu rentres chez toi, t'es... en fait, il y a un jour off obligatoire. Voilà, comme Zera par terre, là, je vais sur ton stream. T'arrives chez toi, t'es juste par terre et t'en peux plus. Et clairement, ouais, il faut un jour voir deux off. Hein. Je vois, par exemple, j'ai streamé avec Juice, là, hier et avant-hier, il n'a plus de voix, quoi. Et sa voix, il est encore en train de la récupérer et... C'est une cata. Et pour beaucoup de streamers, je pense que Ponce doit plus avoir de voix non plus. Parce que vu comme il hurlait derrière moi, mais vraiment, il hurlait à se casser la voix. Je pense qu'il n'a plus de voix. Moi, ça va, j'ai réussi à la conserver. Mais certains, oui, c'est sûr, ils n'ont plus de voix. C'est évident.
D'accord.
Mais oui, il faut vraiment se reposer longtemps.
Ça a l'air d'être une belle fête, en tout cas. C'est vraiment... Je disais, c'est le meilleur de Twitch. On a vraiment, effectivement, l'impression que c'est juste les bons côtés. Et bon, évidemment, il n'y a pas que des bons côtés, mais c'est à la fois tous les gens qu'on aime bien suivre, qui sont peut-être le temps d'un week-end. Je ne vais pas dire que c'est l'illusion qu'ils sont tous potes, mais le temps d'un week-end, on est tous potes, on oublie les problèmes éventuels. Et puis, on le fait pour une bonne cause. Et puis, on donne du plaisir à tous les gens qui regardent. Enfin, c'est vraiment un équilibre qui est un petit peu magique. Qu'ils ont réussi à trouver et qui est, je pense, assez imprégné de la personnalité et du travail de Zerator et Dash. Donc, c'est assez exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel dans le monde, quoi.
Non, mais oui, clairement. Après, il y a le côté, on est tous potes, où on a l'impression que tout le monde est potes. Bah, c'est surtout qu'en fait, on est plus de 55 sur place. Mmh. Tout le monde a ses affinités, etc. Et en gros, à aucun moment, les gens prétendent être potes. Naturellement, les groupes de potes se reforment. Ouais. Et voilà, s'il y en a certains qui n'ont pas d'affinité, ils ne se parlent pas du week-end, en fait. C'est aussi simple que ça. Et il y a bien assez de monde sur l'événement pour que les groupes se fassent et se forment et que tout aille bien de ce côté. Donc, à aucun moment, il y a des moments de gênance où les gens sont obligés de parler à des gens qu'ils n'apprécient pas ou avec lesquels ils n'ont pas d'atome crochu, quoi. Donc, au final, non, tout ça se met bien naturellement.
Écoute, ça donne envie de participer au truc, je veux dire, de regarder, alors que moi, je n'ai pas eu le temps ce week-end, mais ça donne envie de vivre le truc aussi. Je vais, avant de tourner la page, je vais quand même laisser un tout petit peu la parole à Eva et Sébastien, si vous avez un truc à ajouter sur la manière dont ça s'appréhende de l'autre côté, enfin, soit du journaliste, soit des développeurs, je ne sais pas, si vous avez des choses à noter, c'est le moment, et puis après, on avance. Je vais demander à Eva d'abord.
comme tu disais, tu parlais d'équilibre magique, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on retrouve depuis la création, et même au niveau du côté média, ils essaient toujours d'inviter un peu de médias pour qu'on voit un peu l'événement du côté backstage, mais ils n'invitent pas non plus 30 médias et que ça devienne une espèce de gros événement avec des caméras partout, parce que déjà avec les streamers, je pense que ça fait déjà beaucoup de stuff dans la salle. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir à suivre cette année. Et justement, j'avais peur que, comme il y avait des streamers qui étaient chez eux, j'avais peur qu'il y ait un peu moins d'ambiance. Mais les streamers se sont tellement mis à fond dans l'événement que c'était tout aussi intéressant que les années d'avant, quoi.
Sébastien, un truc qui te vient à l'esprit avec tout ça ?
Moi, j'ai trouvé ça franchement complètement perché, quoi. Tu sais, tu disais tout à l'heure le parallèle avec les LAN. Moi, je trouve qu'on est en plein dedans. Il y a un espèce de côté. On amène tout le matos dans une seule grande salle, dans un espace réduit, et puis tout le monde fait ce qu'il aime faire ensemble. Moi, je trouve ça toujours plutôt cool, quoi. Si en plus ça se transforme derrière en don, et en plus c'est pas des petites sommes, là on parle vraiment d'un truc qui a un impact quand même super significatif. Je sais pas, je trouve qu'on a un peu tous les bons côtés. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, sur le côté, c'est compliqué de choisir qui est invité, qu'il y a forcément une forme de sélection, même si c'est, le mot n'est pas adapté, je pense qu'il y aura forcément à un moment donné une forme d'élitisme sur la chose, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, si tu veux, c'est le pendant d'un événement aussi gros. Enfin, tu peux pas, on va pas se mentir, on peut pas faire différemment. Il y a sans doute des idées à mettre en place pour permettre d'avoir en même temps des gens que tu découvres, de permettre de manière aléatoire à faire entrer des gens en mode découverte. Mais quand même, globalement, ce que tu attends pour un événement de ce style-là, c'est avant tout d'obtenir des dons et donc forcément de plaire au public. Et donc naturellement, tu choisis les personnes qui sont populaires parce que c'est l'intention, tu vois. C'est pas, y a rien de mal à ça, tu vois. Mais je peux comprendre effectivement que ça soit quelque chose sur lequel on est un peu... ça peut être un peu délicat à gérer du côté de l'orga, parce qu'il y a toujours cette espèce d'impression de se dire « Ah merde, on fait du Star System », mais en même temps, comment tu veux le faire autrement, tu vois ? Donc moi, ça ne me surprend pas, et je trouve ça... En fait, le résultat, au final, il est là, et je trouve que franchement, ça vaut largement, les débats éthiques ou les préoccupations éthiques qu'il peut y avoir derrière, quoi. Ça se justifie, tu vois.
Excuse-moi, j'étais en train de rigoler pendant que tu parlais de sujet très sérieux, parce qu'on est en train, sur le live, j'ai le résumé de la chaîne Popcorn, le rewind de la chaîne YouTube Popcorn du The Event, et là on voit Alpha qui a joué à Overwatch avec un bandeau sur les yeux.
C'est dur.
D'accord, bon voilà, ça résume l'ambiance.
C'est très très dur.
Bon bah écoutez, un grand merci pour ce résumé et on va faire une toute petite pause, le temps de, on va parler, bah justement je vais encore donner la parole à Alpha et à tous les autres qui auront joué à Baldur's Gate 3, parce qu'enfin on a quelqu'un qui joue à l'un des jeux les plus attendus de l'année. Mais avant ça, je voudrais juste vous parler deux secondes de Patreon, patreon.com/rdvjeux, qui est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission et soutenir le travail que je fais pour faire cette émission toutes les semaines. Donc si vous appréciez, si vous écoutez depuis un moment, c'est très simple, vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous voyez, il y a trois niveaux de récompenses possibles et de soutien, avec un niveau secret qui est hyper difficile à trouver, mais déjà dans le premier, vous avez droit à un flux privé, où vous avez les émissions sans publicité, sans même ce petit laïus sur Patreon au milieu de l'émission, et vous avez aussi droit à d'autres bonus, comme des contenus supplémentaires, vous avez droit à une newsletter qui est étendue par rapport à la newsletter publique, vous avez droit à une couleur spéciale sur le Discord, enfin bref, il y a plein de petits bonus. Si vous appréciez l'émission depuis un moment, c'est surtout pour la soutenir, hein, évidemment, c'est comme à l'époque où on parlait d'Elan, bah, à l'époque on allait acheter un magazine dans le kiosque, un magazine de jeux vidéo, bah là c'est un petit peu la même chose, vous pouvez écouter gratuitement bien sûr, mais si vous voulez soutenir et avoir des petits bonus, et bah, vous le pouvez sur patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Émission. Alors, petit laïus Patreon fait, je voudrais encore une fois donner, comme je le disais, la parole à Alpha, Baldur's Gate 3. Avant, je fais un tour de table. Qui dans, parmi vous a joué à Baldur's Gate 3 en Early Access? Eva, tu y joues ou pas?
Non, pas moi. Je sais qu'il avait fait beaucoup de ventes quand il a été ouvert en Early Access.
Ah, c'est un jeu attendu. Sébastien, toi, tu y joues ou pas?
Non, je me suis interdit parce que j'avais fait l'Early Access de Divinity Original Sin. Et en fait, c'était un super truc, mais comme
l'histoire avait été vraiment
modifiée... Il y avait, j'ai pour le coup Baldur's Gate 3, si tu veux, c'est un peu le monument et j'ai envie de le voir en mode ok, ça c'est la définitive édition, tu vois, l'histoire.
Je peux comprendre. Mais alors effectivement, c'est un jeu qui est hyper attendu, Baldur's Gate, qui est un jeu légendaire du monde du PC, qui est repris par le studio qui a en fait l'héritage de cette série avec Divinity Original Sin et le 2 qui ont connu un succès énorme, c'est Wizards of the Coast maintenant, je sais plus qui a les droits de Baldur's Gate.
C'est Wizards of the Coast.
C'est Wizards of the Coast, c'est bien ça, j'ai cru que je disais une bêtise, puisque c'est un jeu qui est basé sur les règles de Donjons et Dragons, et donc ils sont allés les voir, ils leur ont dit est-ce que vous pourriez faire un Baldur's Gate 3, et ils ont dit évidemment oui. Du coup, oui, je te laisse la parole. C'est bien, c'est quoi? C'est bien, c'est réussi, c'est très early access, dis-nous tout.
C'est très bien. Moi, je veux dire, c'est le seul sur le Discord qui a la photo de profil Baldur's Gate, c'est moi. Moi, je découvre, je suis nouveau sur les CRPG, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je me suis vraiment mis dans les derniers mois avec d'abord Divinity 2 et ensuite BG3. Et je me suis vraiment mis à Divinity 2 pour me préparer à BG3. Et j'avais pas fait le Baldur's Gate 1 et 2, donc pour le point de vue qui est souvent partagé par beaucoup d'anciens qui ont joué à BG 1 et 2, qui est que BG 3 n'est pas assez proche de l'esprit de BG 1 et 2 dans notamment le gameplay, je peux pas forcément le partager parce que personnellement moi j'ai juste appris ce style de jeu avec Divinity.
Tu peux nous dire quel style de jeu c'est, justement, ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout?
Tout à fait. Alors, Baldur's Gate 3, c'est un classique RPG, un CRPG, dans le sens où vous contrôlez un personnage accompagné de différents compagnons avec leur personnalité, leurs histoires. Vous avez une aventure de type voilà, jeu de rôle, et vous évoluez dans un monde vivant avec des tas de personnages à qui parler, des choix, des options, différentes quêtes. Et les combats se jouent en tour par tour, où vous avez, donc c'est pas un système de grille, c'est un système de combat au tour par tour avec différentes portées de déplacement pour chacun, différents sorts, différentes classes. Tout ça, c'est dans un univers heroic fantasy, l'univers de Donjons et Dragons, donc qui est un des piliers hein, de l'heroic fantasy, je pense qu'on peut le dire.
Ah oui,
et, clairement un des piliers du jeu de rôle. Pen and paper, comme on dit en français, je ne sais jamais comment on dit.
C'est jeu de rôle papier, tout simplement.
Jeu de rôle papier, voilà. Mmh. Et du coup, vous évoluez donc dans ce monde. Et le postulat de base de Baldur's Gate 3, c'est que vous étiez un habitant de la porte de Baldur, hein, parce que Baldur's Gate, c'est une ville dans l'univers de Donjons et Dragons. Et vous avez été kidnappé par des flagelleurs manteaux, qui est une sorte de race alien plutôt terrifiante, à savoir que ce sont des sortes d'humanoïdes avec des têtes de poulpe.
C'est des Cthulhu, hein, c'est les grands anciens, voilà. C'est le classique de Cthulhu.
Clairement, c'est la lettre d'amour à Lovecraft de D&D. Et du coup, on a ces flagelleurs manteaux qui nous ont capturés, qui nous ont inséré un verre, je crois qu'ils appellent ça un tétard, dans le jeu en VF, un tadpole. Et ce verre va nous transformer en flagelleur mental dans, normalement, quelques jours, hein, avec un processus qui s'appelle la cérémorphose. Et on veut éviter ça, on veut se retirer ce tétard de la tête, trouver un moyen de survivre, en fait. Donc
objectif compréhensible, finalement. Hein.
Voilà, on n'a pas envie de se transformer en flagelleur mental, parce qu'on l'a vu dans la cinématique que je viens de montrer, c'est pas très beau, quoi. Ça fait un peu mal, quoi. Donc voilà le postulat de base, qui, au final, partage un peu... le début de Divinity 2, dans le sens où ton personnage commence et il a un énorme problème. C'est-à-dire que dans Divinity 2, tu as un collier anti-source, t'es en prison et le jeu te met dans une situation vraiment précaire dès le début et t'as besoin d'en sortir. Et là, c'est pareil pour Baldur's Gate 3. C'est un peu le même levier, j'ai envie de dire, scénaristique. Et c'est pas mal parce que ça te met un petit peu dans une urgence, quoi. Tu te dis, ok, il faut absolument que je me sorte de là, ça motive le joueur à avancer au début, quoi. Donc voilà pour le postulat de base du jeu. Et là, l'Early Access est sorti il y a de cela 2 semaines, je crois. On a 6 classes sur 12. On a pas mal de races déjà. Je crois qu'on a 16 races au total, incluant les sous-races. Et on va avoir d'autres races qui vont arriver plus tard. Et 5 personnages origines qui sont donc vos compagnons. Et ces personnages origines, je sais plus, je crois qu'il y en aura d'autres, mais ils seront jouables aussi. On pourra choisir de faire le jeu directement.
Si on veut pas faire son... C'est comme dans Divinity, ouais. En fait. Si on veut pas se créer son propre personnage, on peut choisir l'un de ceux qui sont déjà faits. Et si on les choisit pas, enfin, dans tous les cas, ces autres personnages vont faire l'aventure avec nous, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est des personnages qui ont un lore, un scénario qui est plutôt bien travaillé, même très bien travaillé, parce que ils ont chacun leur personnalité et leur motivation. Et leurs motivations sont essentielles dans le scénario du jeu. Donc vraiment, c'est comme si vous aviez des mini-campagnes dans le jeu selon le personnage d'origine que vous choisirez de jouer ou d'accompagner. Parce que vous pourrez faire leur quête, évidemment, si ce sont vos compagnons, quoi. Donc ça ajoute un peu de piquant et vraiment beaucoup de personnalité à votre groupe. Tous ces personnages qui vont intervenir en dialogue, approuver, désapprouver certains choix de dialogue, bref. Très intéressant là-dessus.
Et au niveau du gameplay, alors, on est vraiment sur les règles de Donjons et Dragons. Est-ce que c'est assez long en early access? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est complètement buggé? Est-ce que c'est satisfaisant pour quelqu'un qui cherche du CRPG? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il doit prendre l'early access?
Je dirais qu'en solo, c'est très jouable. Moi, j'arrive à jouer en solo sans aucun problème. Les seuls bugs que je rencontre régulièrement, c'est la caméra qui, des fois, est plutôt pénible. Les dialogues, des fois, où tu as Jean-Michel à la caméra qui zoome sur le sol, tu ne sais pas trop pourquoi. Ou certaines cinématiques de dialogue ne sont pas très terminées. Des fois, vous avez les personnages nains qui grandissent d'un coup à l'écran pour atteindre la taille humaine. C'est très bizarre. Donc, il y a des bugs, évidemment, de ce côté-là. Ce n'est pas terminé. En coop, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai réussi à faire une run complète en coop. Mais il y a
c'est combien de temps, la run complète de l'Early Access?
Oh, en prenant ton temps, entre 25 et 30 heures.
Ah, quand même, ouais, il y a de quoi faire. Donc, c'est le premier chapitre, c'est ça.
Il y a vraiment de quoi faire, sachant qu'il y a plein de variations, plein de résultats différents selon ce que tu fais, selon les choix que tu fais. Et je suis loin d'avoir tout exploré encore. Je découvre encore des choses aujourd'hui. Donc, oui, c'est uniquement l'acte 1. Le détail important, c'est que l'Early Access n'aura que l'acte 1. Comme pour Divinity, en fait, l'Early Access sera uniquement basé sur l'acte 1 du jeu. Donc, aucun spoiler sur la suite de l'histoire. Et si on joue à l'Early Access, on joue à l'Early Access juste avant la sortie du jeu, il n'y aura encore que l'acte 1, en fait. Ils se servent de l'acte 1 pour benchmarker et pour améliorer l'expérience du jeu pour les joueurs, quoi.
D'accord. Et donc, on a toujours tous ces aspects de chimie, enfin d'alchimie entre les différents éléments des attaques, la stratégie dans les combats, l'aspect donjon et dragon avec les lancers de dés bien rendus, c'est satisfaisant à ce niveau-là ?
Alors moi, j'ai jamais fait de jeu de rôle papier donjon et dragon, mais j'ai pu voir des streams, des gens y jouer, et c'est plus donjon et dragon que Baldur's Gate 1 et 2 en fait dans les règles.
Ah oui.
De base, Divinity était vraiment la volonté d'adapter du jeu de rôle papier sur un jeu vidéo. Et là ici, on est beaucoup plus proche de l'expérience donjon et dragon papier. Qu'avec Baldur's Gate 1 et 2 qui avait un système de pause actif. Donc au final, voilà, ce débat, est-ce que Baldur's Gate 3 est un peu trop Divinity-like, c'est plutôt que non, Baldur's Gate 3 se rapproche plus de Donjons et Dragons du matériau original en fait que Baldur's Gate 1 et 2. Donc en effet, il y a toujours ce petit débat, est-ce qu'on voulait quelque chose plus proche d'une adaptation D&D ou quelque chose plus proche de Baldur's Gate 1 et 2 quoi. Mais pour le coup, le 3 est en effet une belle adaptation des règles. Il y a les jets de dés tout le temps, quand tu regardes les dégâts que font tes spells, c'est 1d6, 1d8, 3d6. Voilà, c'est comme ça que ça se calcule. Les discussions, vous avez les jets de persuasion, les jets d'intimidation, etc. La création de personnages est vraiment très, très similaire à ce que vous avez dans Donjons et Dragons. Donc oui, non, là vraiment, on est sur une belle adaptation fidèle. Et je pense que Wizards of the Coast sont très satisfaits. Mais en effet, on retrouve beaucoup le côté systémique du développement des jeux Larian, comme Divinity, et aussi tout le côté des combos avec les éléments. Voilà, une boule de feu dans une flaque d'eau, ça fait de la vapeur et du coup, ça cache la vision. Ce genre de choses, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de combos à faire avec les éléments. Et les salles peuvent vite exploser et il peut y avoir du feu partout très, très vite. Ça ne change pas, ça.
D'accord. Bon, écoute, ça fait envie. Hein. Je pense que Sébastien est en train de regretter son choix de ne pas avoir pris l'Early Access.
Très exactement. Non. J'étais en train de me dire, attends, bon, les prochains jours, comment je m'organise, tu vois.
Ah, plus non, bon, après, c'est que l'acte 1. Ouais.
Après, vraiment, si c'est possible d'attendre, je conseille vraiment d'attendre pour jouer au jeu final, parce qu'en effet, la découverte est toujours plus belle comme ça. Moi, personnellement, j'ai commencé Divinity 2 directement en Definitive Edition, c'est un plaisir. Mais j'imagine bien qu'en Early Access, ça ne devait pas être la même chose. Et quand le jeu est sorti, ça ne devait pas être la même saveur aussi. Donc, je peux t'occuper, Sébastien, en attendant. En se disant, voilà.
D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce grand compte-rendu. D'autres jeux auxquels... est-ce qu'il y a d'autres jeux que certains d'entre vous veulent évoquer, auxquels vous jouez en ce moment ? Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ? Vas-y, Eva.
Moi, je me suis mise à Hades, mais je suis pas...
Ah, très bien, j'attendais que quelqu'un...
Je pense que je suis loin d'être la seule.
C'est marrant, Hades, parce que j'en parle ici depuis un bon moment, et quand il est sorti, il y a quoi, 3 semaines, en version finale, je me disais, ah bah ok, il est sorti, c'est cool, les gens vont découvrir le petit jeu, ça va être sympa, je pense que ça va bien marcher. Et franchement, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. J'ai l'impression que le monde entier, c'est ce que je dis depuis quelques semaines, le monde entier parle d'Hades. Et surtout, plus ça va, plus je me dis, bon, allez, cette semaine, c'est bon, tout le monde a compris que c'est un bon jeu. La semaine prochaine, on n'en parlera plus. À chaque fois, il y a plus de monde encore qui parle de Hades. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, j'ai réussi ce week-end, enfin le week-end dernier, à finir le jeu enfin. Je vous disais, j'ai un enfant, tout ça, j'ai pas beaucoup de temps. Mais enfin, j'ai réussi à finir le jeu. Et donc, je suis sur le endgame maintenant. Mais quel plaisir, quel bonheur. Je ne peux pas dire assez de bien de Hades. Et du coup, j'en ai même coupé Eva. Tu apprécies, toi, du coup, en venant de te lancer ?
Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Et la direction artistique aussi, je suis complètement fan. La construction de personnages, le gameplay. Enfin, il y a tout qui va, en fait. Donc, je comprends pourquoi il est aussi populaire. Et c'est assez cool qu'il ait eu autant de succès. Je pense pas que les développeurs eux-mêmes s'attendaient à autant de succès. Mais du coup, j'ai pu encore que peu y jouer. Donc, je verrai ensuite si j'ai le temps d'y jouer, parce qu'en ce moment, sur les jeux en ligne, il y a tous les événements Halloween, etc. Donc, c'est un peu compliqué.
Il faut avouer que Hades a quand même cette... Alors, c'est un roguelite, comme il y a beaucoup de roguelites, mais il a cette qualité d'avoir une narration qui transforme complètement l'expérience, comme on en parlait. C'est vraiment... C'est marrant qu'on ait Sébastien ici, parce qu'il y a 2 ans, le top du roguelite, c'était Dead Cells, et c'était une expérience qui était vraiment... comment dire, on passait presque à un nouveau niveau du roguelike. En tout cas, c'était du roguelite qui était apprécié du grand public vraiment de manière encore plus importante que par le passé. Et là, avec Hades, on est... Au début, je disais, ah ouais, bon, Dead Cells reste quand même mon roguelite préféré. Et puis, petit à petit, j'avoue qu'il y a ce truc de narration en plus et la profondeur qui est au moins aussi bonne que sur Dead Cells qui m'a... fait remonter petit à petit Hades dans mon classement imaginaire de dans ma tête. Et cette narration qui fait qu'on est, malgré l'enchaînement des runs et la mort, qu'on a l'impression de vivre une histoire qui est appuyée par les dialogues, par tous les dialogues, par les interventions des différents personnages en permanence. Et même si on a fait 30, 40, 50 runs, on a toujours des trucs nouveaux, toujours des trucs au niveau de la narration, hein, en plus du gameplay, toujours des trucs qui viennent nous suivre dans notre évolution. C'est, je pense, là, pour le coup, une transformation de la manière dont on appréhende le roguelite. L'année dernière, il y avait Children of Morta, qui avait fait un truc hyper intéressant au niveau de la narration aussi, un peu différent, et pas aussi ambitieux. Le problème, c'est que Children of Morta était fait par un beaucoup plus petit studio et qu'il avait moins de budget, je pense, et donc les environnements étaient moins variés. C'était, on va dire, un petit peu moins réussi dans l'ensemble, mais c'est vrai que c'était un excellent, excellent jeu, que je vous recommande d'ailleurs si vous avez apprécié celui-ci, mais Hades, on atteint des sommets, quoi, je trouve. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? J'ai entendu quelqu'un qui prenait sa
sur
respiration.
Sur Hades, ouais, moi je trouve ça vraiment très très cool. Ils ont fait un long chemin, si tu veux, je trouve, entre les toutes premières versions qui étaient sorties. Je crois que c'était une exclue d'ailleurs à Epic au départ.
Tout à fait. L'Early Access a été lancé en décembre 2018 avec l'Epic Game Store à l'annonce. Donc, ouais. Et moi, je l'ai pris à ce moment, ouais.
Et en plus, à l'époque, il s'était pris un espèce de backslash de la communauté à cause de ça, alors que c'était pas franchement très justifié, mais c'était le moment où il y a eu beaucoup de discussions sur les exclusivités épiques. Mais le jeu a fait un sacré bout de chemin, et je te rejoins complètement là, sur sa partie narration. Je suis hyper jaloux de la manière dont ils l'ont fait, parce que je trouve que c'est la bonne façon de faire de la narration avec des morts permanentes et des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est juste, c'est juste hyper bien, quoi.
Ouais, c'est très intelligemment conçu. Je réponds à la chatroom, j'ai pas dit que Children of Morta était pas bien. Au contraire, je l'ai découvert trop tard pour qu'il soit dans ma liste des jeux de l'année dernière, mais il aurait clairement été dans la liste. C'est un roguelite, un Diablo, en fait. Imaginez Diablo en roguelite, avec en plus un pixel art super réussi et une narration intéressante aussi. Excellent, excellent jeu, mais il est beaucoup moins ambitieux, on va dire. Alpha, si tu t'es pas encore mis à Hades, je pense que tu vas pas pouvoir y échapper.
Ah ouais, tout le monde m'en parle, en effet. J'ai vu aux events, notamment Zera organiser son tournoi et gagner son propre tournoi.
Oh, mais j'ai vu, c'est la manière dont il joue. J'ai été dégoûté pour moi, en fait. Je me disais, en fait, je suis vraiment très mauvais.
Ouais, non, en plus, Super Giant Games, j'aime beaucoup. J'avais joué à Bastion et j'avais commencé Transistor. Je sais plus si j'avais terminé. Et j'avais beaucoup aimé la DA et les OST. Je trouve que les OST de ces jeux sont vraiment divines. Et c'est vrai qu'Hades a l'air très cool. J'aime beaucoup tout ce qui est le voice acting et en effet le storytelling qu'ils ont dedans. Après, le gameplay, c'est un peu moins. Je suis un peu moins la cible, je pense, parce que j'ai jamais été trop Diablo-like en termes de gameplay, même si là, c'est pas du Diablo-like, mais la vue 3D ISO avec le contrôle à la souris comme ça, je suis moins client.
Tu peux le faire à la manette. D'ailleurs, ça se joue à la manette plutôt. Donc,
D'accord. Ouais.
C'est beaucoup plus pratique à la manette. Moi, c'est comme ça que je le fais et ça marche très bien. Enfin, sans vouloir t'obliger, je crois que c'est un incontournable.
Il faudra que j'y passe. Mais là,
il y a des choses à faire.
Juste pour finir sur les jeux en ce moment, peut-être à noter le mode multi. Moi, je suis sur le mode multi de Ghost of Tsushima.
Ah oui, bien sûr.
Et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment très, 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 très bon pour un free LC. Beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire et ça renouvelle bien l'expérience. Donc, je voulais juste en parler vite fait. Bien joué à Sucker Punch de ce côté. Que le Ghost of Tsushima Legends, très, très bon, quoi.
Vraiment. Mais alors, ça se passe comment? C'est vraiment un multi-coop, un multi... tu peux nous en parler un petit peu plus?
Ouais, c'est un multi-coop. En fait, vous avez une petite campagne à deux, qui se joue uniquement à deux. Donc, des missions scénarisées. Un peu à la manière, c'est un vieux qui vous raconte un récit de fantômes. Et en fait, vous incarnez ces fantômes dans des missions différentes, avec des environnements très, très, très inspirés en termes de DA. C'est complètement fantastique. Hein, ça reprend les mythes et folklore japonais avec les Oni, les fantômes, etc. Et donc, ça
me
se joue à deux.
Tout à coup.
Il y a 9 missions et mine de rien, ça se fait quoi dans 4 heures en difficulté bronze. Vous avez 3 difficultés à chaque fois avec des ennemis qui changent, des challenges qui changent. Donc, beaucoup de rejouabilité, je trouve. Et vous avez un mode horde avec 4 maps qui se jouent à 4. Et vous avez 4 classes aussi que vous pouvez spé. Vous avez du stuffing avec un e-level. Enfin, c'est très complet. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de l'heure de jeu sous ce mode et beaucoup de travail. Donc... moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de tout ce contenu rajouté comme ça au jeu gratuitement. Faut le PS Plus pour pouvoir jouer en ligne. Mais sinon, il y a de quoi faire. Et si on aime le gameplay de Ghost of Tsushima, clairement, c'est pas une perte de temps, quoi. C'est très, très cool.
C'est, comme tu le disais, c'est un DLC gratuit si on a déjà le jeu, bien sûr. Mais on n'a pas besoin de payer le jeu, de payer le DLC en plus. Donc, c'est accessible à tous
c'est
ceux qui l'ont
LC.
Acheté.
Ouais. C'est un free LC, tout simplement.
Ok, super. Un autre jeu qui reste? Non, c'est bon, on a fait le tour. Eva, Sébastien, ok. Eh bien, écoutez, on va donc continuer avec un petit tour rapide des news qui restent. Avec le streaming, alors on a d'une part les premiers tests d'Amazon Luna, le service de streaming de Amazon qui a été testé aux États-Unis, qui a l'air de fonctionner pas trop mal, mais plus que pour les autres services de streaming, il faut une bonne connexion visiblement, à voir s'ils vont arranger ça au cours de leur early access, s'ils arrangeront leur technologie pour que ça soit un peu moins regardant vis-à-vis de la vitesse de streaming. Ils disaient qu'à 25 mégabits seconde, c'était le minimum, alors que les autres peuvent gérer quand même avec une dégradation de la qualité de l'image, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'Amazon. Et puis, du côté de Stadia, on a les démos gratuites qui arrivent enfin. D'ailleurs, je vais voir... Si c'est disponible ici maintenant pour Phoenix Rising, parce qu'on a le Pac-Man Battle Royale qui est disponible en démo gratuite pendant une semaine. Il y a une démo gratuite de Humankind, une sorte de civilisation qui est développée, je ne sais plus qui le développe, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. Et puis, on a Phoenix Rising qui va arriver dans pas longtemps, même au moment où vous écouterez cet épisode, il sera disponible pendant une semaine. Donc, Phoenix Rising, c'est l'ancien Gods and Monsters de Ubisoft. Et donc, c'est des démos gratuites. Et comme Stadia est accessible sans aucun... c'est bien Amplitude hein, qui fait Humankind. J'ai failli le dire et puis je me suis dit, non, je vais dire une bêtise. comme c'est disponible sans aucun matériel, vous pouvez ouvrir dans votre navigateur la page de Stadia et commencer à jouer, et que la démo est gratuite, donc vous n'avez pas besoin ni d'acheter de jeu, ni de prendre d'abonnement, et bien tout le monde peut jouer à cette démo, enfin à cet Open Dev de Humankind, ou au Battle Royale de Pac-Man, qui fonctionne franchement pas mal. Je ne sais pas si je vais y passer ma vie, mais ça fonctionne bien. Et puis il y aura la démo de Phoenix Rising, qui est un petit peu le Zelda d'Ubisoft, que tout le monde pourra tester. Donc enfin, Stadia s'y met. J'espère qu'ils vont faire un petit peu plus de bruit, parce que c'est un élément hyper important de leur stratégie. Et comme d'habitude, dans la communication de Stadia, c'est fait n'importe comment, et il a fallu chercher l'information. Il se dit, ah oui, ok, en fait, c'est maintenant, ça y est, ça arrive. J'espère qu'ils vont faire un petit peu plus de bruit pour ce jeu que tout le monde attend, le Phoenix Rising, parce que c'est une grosse opportunité pour eux. Mais bref, je ne comprends pas Stadia depuis le début.
C'est pas que Stadia, hein, c'est Google en général qui te demande vraiment. C'est bizarre, c'est comme s'ils ne voulaient pas parler de leurs produits, en fait.
Un petit peu, ouais, mais c'est d'autant plus sensible avec Stadia qu'il y a de la concurrence, quoi.
Ah ouais, oui.
Mais bon, si vous voulez jouer à un Pac-Man Battle Royale, c'est disponible sur Stadia. J'ose pas le lancer maintenant sur mon navigateur, parce que je me dis ça va peut-être faire merder le stream. Mais vous savez quoi, on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien, hop, je suis carrément en train de lancer le jeu là. Alors vous allez entendre le son hein, du jeu en même temps. Et voilà, et là je suis dans le jeu. J'ai cliqué il y a 2 secondes et je suis dans le jeu. Bon, vous pouvez essayer chez vous, donc je pense que c'est pas... Non, je suis pas dans le jeu, c'est encore un écran noir. Ça a pris un petit peu de temps à lancer, mais... Eh ben, dites-moi, ça va pas marcher juste quand je dis que ça fonctionne très bien, c'est un scandale. Si, voilà l'écran de Namco Bandai. Et voilà. Oula, ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que je peux... Et vous entendez le bruit de Pac-Man. Start, hop, et on peut jouer. Et je peux jouer. Hop, bref. Vous avez compris, ça fonctionne. Et ça fonctionne sans aucun problème. C'est ça le truc magique avec Stadia, on peut le lancer n'importe comment, enfin n'importe quand, depuis n'importe quel navigateur. Bon, parlons un petit peu de Twitch et de ce qui se passe. Alors d'une part, il y a eu un stream incroyable d'une représentante du Congrès américain, la fameuse Alexia Ocasio-Cortez, qui a fait 430 000 vues simultanées, où elle a encouragé les gens à voter dans l'élection à venir aux États-Unis. C'est marrant de voir un homme politique qui se sert de cette manière de Twitch, même si on a déjà vu ça en France dans une... ampleur moindre peut-être, mais surtout quand on parle de news de Twitch, c'est cette série de suppression de vidéos qui a été faite par Twitch suite à des demandes des ayants droit de la musique qui ont envoyé des demandes DMCA, donc des demandes de suppression parce qu'il y avait de l'utilisation de contenu copyrighté, en l'occurrence la musique qui est utilisée depuis très longtemps sur Twitch par les streamers parce que bon, c'était comme ça que ça se faisait, mais les instances de Twitch, là, ont décidé de prendre la chose au sérieux et les nombreuses demandes, les milliers de demandes des ayants droit ont causé la suppression, donc, d'une énorme partie des vidéos archivées des streamers sans prévenir. En fait, ils ont juste tout supprimé. Ils n'ont pas fait de strike. Vous savez qu'il y a, comme partout ailleurs, des systèmes avec 3 strikes et après, on peut se faire bannir son compte. Mais là, ils n'ont pas fait de strike. Ils ont juste envoyé un avertissement, on va dire, à tous les streamers. Mais il n'empêche que tous les streamers n'ont même pas eu le temps de télécharger leur contenu et ils se sont juste fait supprimer toutes leurs vidéos. Alors, bon, je ne sais pas si tu as été affecté, Alpha. Il y a un côté... compréhensible et un côté moins compréhensible. T'as été affecté, toi, ou pas du tout ?
Écoute, je touche du bois. J'ai pas encore reçu de mail, ou alors il est dans mes spams et je l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression d'avoir été touché, non.
Bah en fait, non, si on n'utilisait pas de la musique copyrightée qui était... Parce que dans les lives, si je ne me trompe pas, Twitch s'arrange pour les lives pour payer comme on paye à la radio. Peut-être qu'ils ne payent même pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les lives eux-mêmes, ce n'est pas forcément un problème ou ce n'était pas un problème jusqu'à maintenant. Par contre, dans les vidéos archivées, c'était clairement un problème. Moi, je comprends que... À partir du moment où tu utilises les derniers morceaux, je vais me dater encore, du top 50, et ben, forcément, à un moment, ça risque de poser un problème, quoi. Il y a un côté un petit peu, pas d'irresponsabilité, c'est un peu fort, mais un côté de, d'insouciance des streamers, parce que ça s'est toujours fait comme l'autruche. Ça, et bon... Ouais, voilà, c'est un peu ça. Tout le monde entier a fait l'autruche, en fait, sur Twitch. Parce
que j'ai
on a
pas
jamais...
mal, j'enlève pas ma main.
C'est un peu ça. Et en même temps, c'est vrai que la manière dont Twitch a procédé au truc en disant, bon, bah... on n'en a rien à foutre, on va tout supprimer, mais tout, sans même prévenir, sans donner l'occasion de downloader les contenus. Et puis ensuite, maintenant, il y a beaucoup de streamers qui se disent bah « Moi, je vais devoir juste tout supprimer. Si j'utilise de la musique, je vais supprimer tout mon contenu. » Maintenant, ils peuvent le télécharger avant de le supprimer, donc c'est un moindre mal peut-être. Mais bon, en même temps, si vous utilisez de la musique, qu'est-ce que vous pensiez qui allait se passer, quoi ? C'est un peu ça.
Ouais. Ah oui, c'est sûr... C'est sûr qu'il y a un moment, passer, voilà quoi.
Oui, il y a un moment, bah voilà quoi.
Passer les intégrales d'artistes qui t'ont jamais donné les droits et monétiser ton stream avec ça, bon, en effet, c'est juste fait légal quoi. Mais bah, c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de clarté quoi. Genre, c'est assez terrible que, qu'avant même qu'on ait des communiqués ou quoi, les gens se fassent striker et aient des menaces de ban, c'est hyper. Enfin. C'est pas du tout sain.
Là, en l'occurrence,
quelque chose d'assez anxiogène. Là, si en plus on rajoute ça.
Disons que là, il n'y a pas eu de strike, justement. C'est là qu'ils se sont dit, bon, on vire tout, on met un avertissement qui n'est pas un strike, c'est juste faites gaffe. Et donc, il n'y a pas eu de strike. Donc, c'est à la limite un
côté positif. Oui, mais je parlais par rapport au premier. Au premier qu'on a eu il y a quelques mois.
Ouais, au début de l'été, oui.
C'était vraiment... Oh, c'était terrible. Hein. Quand on a vu ça, tout le monde se demandait, OK, est-ce qu'on va être ban demain tous ? Je ne sais pas. Ouais. Mais heureusement que là, bon, il y a des avertissements, mais c'est vrai que les solutions, c'est vrai que c'est dur d'aller en arrière. C'est dur de se priver de superbes musiques qu'on avait l'habitude d'écouter, mais qui étaient copyrightées. Ouais, personnellement, je sais que je suis un peu dans la gray area où j'utilise beaucoup de musiques de jeux qui sont au final des musiques qu'on autorise en stream, parce que quand ces musiques de jeux passent sur ton live. Quand tu joues à ce jeu, bon bah effectivement, en effet, t'es dans la légalité. Et utiliser du coup les OST de jeu, même quand tu n'es pas sur ce jeu, c'est un petit peu une zone grise. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein, et les musiques de libre de droit d'auteur, bon. Ouais. Au même niveau, quoi.
Bah, y a plusieurs créateurs qui se lancent dans ce domaine. D'ailleurs, c'est marrant, on a Manaberry qui est dans la chatroom, l'un des gâteaux secs, qui nous donne l'autre côté, enfin le revers de la médaille, qui dit les artistes vivent de l'exploitation de leur musique. Les streamers sur Twitch en ont profité pendant des années gratuitement de tout ça. Donc les streamers et Twitch. C'est vrai que maintenant, je crois que le move de Twitch, c'était un petit peu de faire table rase et dire bon, OK, on arrête tout, on oublie ce qui s'est passé avant et maintenant on part sur des bases saines. En même temps, je ne sais pas à quel point c'est les artistes et à quel point c'est les majors qui sont à l'origine de ce genre de truc. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des intérêts qui s'alignent. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui fournissent des musiques libres de droit maintenant, qui se font rémunérer par les droits qui sont payés par les boîtes sur le mode radio, en fait. Et c'est tout à fait un truc qui se développe. Et même Twitch propose son... comment ils appellent ça ? Soundtrack ? Je ne sais plus comment est le nom du service de Twitch qui vous propose justement des musiques libres de droit à utiliser sur vos streams pour être tranquille, on va dire. Et c'est ça, c'est Soundtrack by Twitch. Donc bon, espérons que les bases seront saines. Oui ?
Un peu scout aussi, quels artistes communiquent expressément sur le fait que nos musiques, vous pouvez les utiliser sur Twitch sans problème. Je sais qu'il y a Anjuna Beats qui ont, enfin Ocean Lab qui ont communiqué là-dessus. Il y a aussi des artistes comme... alors, je ne sais plus si c'est le cas pour Carpenter Brut, mais Perturbator. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui communiquent et qui disent « Ok, on est au courant pour Twitch et nous, on aime beaucoup ce qui se fait sur Twitch et on n'a aucun problème à voir les streamers utiliser nos musiques. » Et ils communiquent expressément là-dessus pour dire aux gens de ne pas hésiter d'utiliser leur musique. Donc ça aussi, il faut un peu se renseigner. Et tu peux quand même te faire de bonnes playlists quand tu arrives à voilà, voir qui autorise et qui s'en fiche ou n'autorise pas. Quoi.
Bon, quelques news rapides pour finir. League of Legends Wild Rift arrive début décembre en Europe. Vous dites Wild Rift, mais on s'en fout, c'est un jeu mobile. Ben non, il arrive aussi sur console. Donc, si vous voulez jouer à League sur console, ben, vous pourrez, début décembre, préparer la fonctionnalité de la PlayStation 5 pour enregistrer les conversations au micro pour envoyer pour modération. Blizzard a arrêté le développement sur StarCraft 2, en tout cas le développement de nouveaux contenus. Donc il rentre en mode maintenance StarCraft 2, ça en a déçu beaucoup. Mais bon, j'avoue que je comprends un petit peu, on peut débattre de StarCraft 2, mais bon. Il y a encore un nouveau studio qui a été ouvert par des anciens de Blizzard qui s'appelle Frost Giant Studios. Et au début, je pensais que c'était juste deux personnes qui ont allé ouvrir un studio. En fait, il y a toute une poignée d'anciens développeurs et qui veulent faire du RTS. Donc peut-être que le RTS continuera par ce biais. On a eu une jolie interview de Phil Spencer dans Kotaku qui parle de plein de sujets différents, mais surtout qui a fait une annonce qui a un petit peu étonné le monde entier, où il disait « Ah ben, nos jeux des studios achetés, comme par exemple Bethesda, ils seront peut-être pas sur les autres plateformes. » Et tout le monde a dit « Oh mon Dieu, Phil Spencer a dit que Elder Scrolls 6, que Skyrim 2 ne serait pas sur PlayStation 5. » Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. En fait, il répondait à une question de Steven Totilo, le rédacteur en chef de Kotaku, qui lui demandait « Est-ce que vous pourriez rentabiliser l'achat monumental de Bethesda, enfin de ZeniMax, en ne sortant pas les jeux sur les autres consoles ? Est-ce que ça serait possible ?» Et Phil Spencer, en résumé, disait « Oui, ça serait possible. » Et on étudie la sortie. Enfin, il disait juste « Oui, ça serait possible. » Il n'a pas dit que ça sortirait pas sur les autres consoles. Mais bon, en même temps, ça veut dire que ça pourrait ne pas sortir sur les autres consoles, ce qui n'est pas très surprenant. Mais c'est marrant de voir que le monde entier a sauté de son lit en disant « Ah !» Alors que bon, c'était clairement une possibilité. Et quoi d'autre ? On a des informations additionnelles sur le deal entre GameStop et Xbox, justement. GameStop qui va avoir de l'argent à chaque fois qu'une console qu'ils ont vendue sera utilisée pour acheter du contenu en ligne. En fait, après analyse un petit peu plus profonde que ce qu'on avait fait l'année dernière, et certains journalistes ont mentionné et ont remarqué le fait que GameStop en fait pas des caisses, hein. Ils en parlent pas énormément. Et donc, il est très possible que ça soit une partie tellement minime que ça ne changera pas énormément leur résultat au final. Donc, peut-être à prendre avec un peu plus de pincettes qu'on ne pensait à l'origine, cette information. Pas des pincettes, mais enfin, ce n'est pas un gros deal et ce n'est pas ça qui va sauver GameStop. Des nouveaux témoignages de crunch chez CD Projekt Red. Alors, c'est quand même assez limité en ce sens que on ne dit pas que ce n'est pas réel, mais c'est un ou deux développeurs seulement qui se sont exprimés sur le sujet. Ce n'est pas un gros rapport, comme on les aime bien, de Jason Schreier qui a fait une enquête longue. C'est en fait des gens qui sont allés s'exprimer sur Twitter. Donc, ça met quand même un petit warning sur le radar, mais c'est pas non plus complètement confirmé. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, donc il faut comprendre de quoi il s'agit. Et puis, on a des cybercriminels qui menacent Ubisoft de publier publiquement le code source de Watch Dogs Legion. Ils auraient réussi à télécharger le code source et ils menacent de le publier. C'est du chantage. À voir ce qui va se passer. Watch Dogs sort dans pas longtemps du tout, dans une semaine. À voir s'ils vont céder ou s'ils vont négocier. Moi, j'aimerais bien un gros message d'Ubisoft qui dirait « on ne cède pas au chantage, publiez-le si vous voulez ». Bon, évidemment, ça aurait des conséquences assez dramatiques pour eux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas payer des millions et puis risquer de le voir publié quand même ? Ouais, Sébastien ?
J'ai vu passer cette news-là et franchement, je me suis vraiment demandé, très sincèrement, si ce n'était pas un coup de com', parce que c'est tellement en phase avec le jeu que franchement, c'est un peu gros, quoi. Enfin, je ne sais pas, hein. Mais s'ils voulaient faire un coup de com' rigolo ou enfin, original...
Tu
c'est
sais,
quand même sacrément bien de tomber, quoi.
Ça, c'est vrai, mais en même temps, ils ont une image de marque tellement désastreuse en ce moment, Ubisoft. Je crois que s'ils font ça et que finalement, tu te rends compte que « Ah non, en fait, c'était pour rire, achetez Watch Dogs Legion », ça serait dramatique. Moi, je crois que ça serait pas forcément une bonne idée. Mais peut-être, on n'est plus à ça près chez eux. Et enfin, dernier sujet que je voulais aborder avant de vous libérer, le rapport de Feminist Frequency qui fait chaque année une étude sur les jeux annoncés dans l'année pour voir combien ont des protagonistes femmes et hommes. Et on a une belle embellie cette année avec 18% de jeux annoncés qui ont un protagoniste principal femme, 23% homme, alors que l'année dernière, c'était 5% et 21%. Le reste, 54% cette année, c'est... soit c'est des options multiples, soit c'est... Il y a aussi une petite partie, c'est non précisé. Donc, en gros, on arrive presque à une égalité, pas tout à fait, hein, on est à 5% de différence entre hommes et femmes, à voir si ça sera... si ça se continuera, si ça se confirmera dans les années à venir. Mais même les gens formidables de Feminist Frequency, qui sont généralement très sage-val sur la chose et qui sont, disons, qui sont assez militants, ils reconnaissent que c'est une bonne année pour cette problématique. Espérons que ça continue les années à venir. Voilà pour toutes les news. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter, Eva ou Sébastien ou Alpha, sur tous ces sujets-là depuis League of Legends qui arrive sur console, qui va tout casser à la suite du RTS chez Frost Giant ou au crunch chez CD Projekt, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a quelque chose qui vous a plu ?
J'avoue. Après, sur le crunch, c'était attendu quand même. J'imagine pas un jeu pareil sans le crunch, enfin, même si je
suis
un peu là-dessus, mais...
Le truc, c'est qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait 6 semaines de crunch obligatoire juste avant la sortie du jeu. Donc, il y a un petit mois, ils avaient annoncé ça. Et ils disaient qu'on a réussi à pas trop faire de crunch avant. Et là, dans les rapports de la personne qui en parlait sur Twitter, ils disaient « Mais vous rigolez, ça fait genre depuis le milieu de l'année dernière qu'ils sont en crunch permanent, les gars. C'est n'importe quoi. » Et du coup, ça fait ressortir pas juste le spectre du crunch obligatoire sur les 6 prochaines semaines, qui était, on va dire... On peut en discuter, mais ça peut être acceptable. Et ça fait ressortir le crunch, le problème du crunch permanent chez CD Projekt Red, qui n'est pas du tout rigolo et qui a un vrai problème chez cet éditeur. Donc, ça éclaire la chose de manière différente, si tu veux. Alpha, tu voulais parler d'autre chose aussi ?
Non, je me demandais justement... toi, tu as déjà été confronté à ça, Sébastien
Les questions de crunch ?
Forcément. Ça nous est forcément arrivé parce qu'il y a, enfin, c'est tout le problème de tous les secteurs dans lesquels tu communiques à l'avance sur une date de sortie de quoi que ce soit. C'est forcément, t'es confronté au crunch. Alors, jeu vidéo, c'est encore plus particulier parce que, par exemple, contrairement au cinéma, le tournage, il se passe sur quelques semaines et après, il y a quand même pas mal de flexibilité. Quand tu fais un jeu, tu bosses jusqu'au dernier jour en général, jusqu'au jour de la release, ou en tout cas au moins deux mois avant. Et donc forcément, c'est un truc qui se produit assez immanquablement dès l'instant où une date est annoncée et qui n'est pas nécessairement décalable dans le temps quand tu as un gros couac ou un os ou quoi que ce soit en chemin. Donc forcément, c'est des choses qui se produisent. On essaie de le minimiser à MotionTune autant que possible, mais malgré tout, je sais que sur Dead Cells, on l'avait fait... après, c'était volontariat, donc il n'y avait pas d'obligation là-dessus. Mais la réalité, c'est que... sur le terrain, c'est que ça marche pas très bien le crunch, c'est que tu as effectivement plus de productivité à un instant T, parce que tu fais des jours en plus, mais tu en sors tellement à la ramasse derrière que en fait, c'est pas très très intéressant au long cours. Quoi. Et tu perds des gens aussi au passage. Donc, ça nous est arrivé, mais bon, pas pour un bilan très positif. Quoi.
D'accord. En effet, la culture du crunch, c'est vrai que...
Ah bah...
tout le monde en entend beaucoup parler, mais... Mais au final, le vivre, c'est quand même, je pense, ce qui te donne le plus d'infos, quoi.
Bah oui, c'est sûr.
C'est une chose de se dire, bah oui, c'est pas bien le crunch, mais en substance, à quoi ça ressemble, moi, c'est vraiment la question que je me pose. Ayant jamais bossé dans un studio, je posais cette question. Et ils ont aussi, je sais que Larian Studio aussi ont eu beaucoup de crunch pour Divinity 2 et à mon avis BG3. Bon, vu la taille du jeu, il y en aura aussi énormément. Mais ouais, c'est bon. J'ai l'impression que ça glisse vite vers du crunch sans que vraiment tout le monde. Enfin, je sais pas s'il faudrait une loi ou quelque chose pour prévenir ça, mais je sais pas si c'est faisable. Mais
ça dépend de la taille du studio aussi.
Mmh.
Parce que en indépendant, c'est vrai, c'est difficile. Pardon, vas-y.
Non, vas-y.
Quand je vois mes potes qui lancent leur premier projet indépendant, ils font tous face au crunch. C'est difficile d'imaginer un projet qui n'a pas recours. Mais dans les gros studios, c'est beaucoup plus difficile à pardonner, étant donné qu'ils sont censés avoir des managers et une équipe RH, etc., qui est censée s'assurer que ça n'arrive pas, en fait.
Ouais. C'est sûr que ça se gère pas et ça se comprend pas forcément de la même manière quand t'es un tout petit studio plein d'indés motivés. Mais même là, ça peut être problématique. Pour répondre peut-être un petit peu à la question de tout à l'heure, si tu peux, et puis on va conclure là-dessus, si tu peux nous décrire un petit peu, pas forcément, enfin je sais pas où t'aurais eu ces expériences de crunch spécifiquement, mais comment ça se passe en fait, c'est épuisant, t'as envie quand même, mais t'es crevé, mais tu sais que tu peux pas continuer comme ça tout le temps, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un dev qui est en plein crunch pour sortir un jeu ?
En fait, c'est quand tu es dans une période de crunch, c'est pas vraiment le moment où ça pose de vrais problèmes, à part sur la vie perso, parce que forcément, tu as moins de temps libre et tu es plus souvent au bureau, quoi. Mais là où ça pose surtout problème, c'est l'effondrement que tu as après, en fait. Je pense que c'est un peu la même chose, par exemple, ce que tu parlais sur The Event, ou quand nous, on fait des game jams ou des événements où tu fais beaucoup de choses, plus que d'habitude, tu en sors tellement ramassé derrière que ça...
Oui. Ça a coupé un petit peu.
Trop de crunch apparemment.
Clairement, la connexion de Sébastien fait un peu trop de crunch.
Et l'appel.
Mais j'imagine que le The Event t'en sort complètement par terre au bout de deux jours.
C'est pas du crunch, ça.
Mais je veux dire, c'est tu bosses sans arrêt. Et puis le truc, c'est que le crunch, si c'est six semaines encore, ça peut être géré. Mais imagine quand c'est des mois et des mois. Et puis Sébastien disait, tu bosses jusqu'à la sortie du jeu, mais il y a beaucoup de développeurs aussi chez qui c'est, une fois que le jeu est sorti, il faut bosser sur le DLC, il faut maintenir le jeu parce que c'est un jeu service.
Et puis, ils ont tout le multi à développer encore sur Cyberpunk. Je sais qu'ils veulent le sortir un an après le solo, donc c'est loin d'être terminé le projet une fois que Cyberpunk est gold. Hein. Mais c'est sûr... Quand je compare à quand on est en auto-entrepreneuriat ou on a sa propre entreprise, forcément, tu fais du crunch un petit peu sans t'en rendre compte. Quoi. Tu bosses tout le temps sur ta boîte quand c'est ton projet. Mais en effet j'imagine que très vite, le crunch apparaît dans des petits studios indépendants avec des petites équipes où ils bossent constamment et ils font des heures... qui n'ont pas de sens, mais en effet, dès que les studios grandissent, il faut vraiment que ça commence à disparaître parce que c'est juste pas possible, quoi.
Ouais, je te confirme. Moi-même, par exemple, là, ça s'entend pas trop, j'espère, mais je suis un petit peu malade comme un chien. Le petit est malade, ça a été compliqué. Ma femme est malade et pourtant, t'es indépendant, faut y aller, quoi. faut bosser. Et je pense que c'est l'une des problématiques avec les gros studios, c'est que nous, indépendants, on bosse pour nous et on choisit nos horaires. Et oui, on bosse beaucoup, mais c'est un petit peu le choix qu'on a fait, même s'il faut essayer de trouver un équilibre. C'est ça. Et puis si tu bosses comme un fou et que tu fais, 30% de thunes en plus ce mois-là, l'argent, il vient dans ta boîte et éventuellement dans ta poche. Les employés qui vont bosser comme des malades pendant 6 mois, encore chez CD Projekt Red, ils ont une participation aux bénéfices, donc c'est peut-être un peu différent, mais souvent, c'est pas dans ta poche qu'elle va l'argent, c'est dans la poche de ceux qui sont au-dessus. Donc, Sébastien est revenu, tu nous finis ta description du crunch et tu disais, ce qui est dur, c'est après, quoi.
Ouais, tout à fait, excuse-moi, j'ai changé de position, je vais prendre un tout petit peu moins fort. Ce que je te disais, c'est surtout l'après en fait qui est dur, c'est que c'est une grosse perte de productivité au final. Et je sais qu'à Motion Twin, ça, typiquement on compte les heures, on a un système, on reporte toutes les heures qu'on fait. Et effectivement, ce qui est sûr, c'est quand tu fais la grosse addition sur plusieurs mois, les périodes de crunch sont suivies d'une période de creux. Et quand les gens y survivent, tant mieux. Mais quand en plus t'en sors vraiment épuisé ou moralement au fond, quoi. Enfin, forcément, ça a un coût. Quoi. Dans notre cas, on n'a eu aucune situation grave comme ça qui soit jamais produite, alors Dieu merci. Mais c'est ce qui se passe dans des grosses structures. Et juste pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est un peu systémique, en fait, le crunch. C'est pas quelque chose...
Bien sûr.
c'est pas quelque chose qu'on peut facilement éviter, et encore plus dans un gros studio, parce que le propre du jeu vidéo, justement, c'est que tu as une idée initiale, tu as une théorie initiale sur ce qu'est le jeu vidéo que tu veux faire. Il y a beaucoup, beaucoup de découvertes en chemin, en fait. Beaucoup de choses qui, en fait, sont découvertes au moment où on implémente l'idée ou tel concept et tout. Et du coup, c'est beaucoup de réadaptation et de changement de cap qui interviennent tout au long d'un projet. De changement de ton et tout ça. Et même, tu vois, sur, je pense qu'on parlait de Watch Dogs ou des jeux comme Cyberpunk, je ne doute pas une seule seconde qu'en plein milieu, il y ait des revirements, des choses qui sont devenues plus importantes. Plus
oui, tu veux dire, le jeu, tu pars dans une direction et tu découvres ce qu'est le jeu au fur et à mesure du développement, donc il faut
exactement,
changer.
Exactement, oui. Et ça fait que l'idée même de pouvoir poser une date, ça n'a aucun sens, en fait. Mais on le fait quand même. C'est plus le problème, il est plutôt là, en fait, quoi. On pose des dates sur quelque chose qui est par définition hyper fluctuant et même anticipable. Et on est quand même, plus encore pour les gros studios, ils sont obligés de se poser sur des années, des calendriers fiscaux ou des calendriers de budget, quoi. Et alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Le jeu peut nécessiter plusieurs mois de plus et ils peuvent pas, quoi.
Eh, le problème, c'est que si tu mets pas de date, tu peux aussi continuer le développement pendant très 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 longtemps et jamais sortir ton truc parce que c'est une œuvre d'art finalement. Et à quel moment est-ce que tu décides que ton truc est terminé ? C'est comme le podcast. À quel moment est-ce que tu décides que ton épisode est terminé ? Je vous pose la question et il n'y a pas de réponse. Et si la réponse c'est maintenant. L'épisode touche à sa fin. On mentionne dans la chatroom Star Citizen. Là, c'est pas la même chose. Ils ont plus d'argent que n'importe qui. Oula. Donc, eux, ils peuvent vraiment ne jamais le sortir. Hein. Ça posera pas de problème pour eux. Écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce long épisode. Avant de se quitter, j'aimerais tout de même vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver. Je vais donner la parole à Eva qui est restée bien sage quand même sur cet épisode. Désolé,
j'ai beaucoup appris. Parlé.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, sur Internet ?
Sur Twitter, principalement. Donc, c'est SaltySwan sur Twitter.
SaltySwan sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Sébastien, où est-ce qu'on te retrouve, Mr. Deep Knight ?
Mais principalement sur Twitter pour tout ce qui est, on va dire, des discussions, contacts et tout ça, quoi. Et après, sur mon site où je publie tout ce que je fais, donc en ce moment des outils et puis des jeux quand j'en fais.
De temps en temps, c'est la vie d'un vrai indépendant.
C'est ça.
Le lien sera aussi dans les notes de l'émission, tout comme celui de AlphaCast. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Alpha ?
AlphaCast sur Twitter, Twitch, YouTube, voilà.
Un petit peu partout.
C'est facile.
Voilà. C'est quoi le programme des prochains streams ? C'est toujours Baldur's Gate ou c'est terminé ça quand même, 25 heures, ça n'a pas pris longtemps. Tu vas te mettre à Hades, c'est ça.
j'ai ce qu'on appelle la démocratie run que je fais en ce moment sur Baldur's Gate où le chat décide de tout. Et parce qu'il y a une intégration Twitch pour les votes de dialogue. Et je fais ça tous les vendredis. En suivant un petit peu l'évolution de l'Early Access. Et sinon, je vais découvrir Ghostrunner, moi, la semaine prochaine. Et le week-end qui vient, on a l'événement avec originalité et enthousiasme, avec Zerator. Donc, on va découvrir ça. On va commenter des games incroyables de Age of Empires avec Zera, donc en studio. Initialement, on devait le faire au Grand Rex, mais voilà, ça, avec Covid, ça a été un peu annulé. Du coup, on fait ça en studio et j'ai hâte d'y être. Ça va être samedi, ça, samedi soir.
Très bien. Super. Écoute, on suivra ça. Et comme je disais, les liens vers les comptes Twitter de tout le monde sont dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch d'ailleurs, pour les enregistrements de ces épisodes. Et même sur YouTube, il y a une vidéo que je viens de sortir là, youtube.com/NotePatrick, où je vous donne la parfaite définition de ce qu'est un core gamer. Qui est pourtant un débat hyper toxique, mais je vous définis ça sans aucune toxicité, sans aucune agressivité. Vous allez voir, c'est logique, c'est la puissance du raisonnement. Vous pouvez voir ça sur YouTube, Note Patrick sur YouTube. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est, comme vous le savez, Patreon, patreon.com/rdvjeux. Maintenant que l'émission se termine, vous pouvez aller sur le site, sur votre mobile ou sur l'ordinateur. Ça se fait en 2 secondes et vous avez droit à des bonus sympas. Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvjeux. TV jeux. Je crois pas qu'il y aura d'after show, donc désolé les patriotes pour cet épisode. Comme je le disais, c'est un petit peu un épisode d'un enregistrement en mode crise avec la maladie. J'ai évité les reniflements et les toux, je sais pas comment j'ai fait, mais on va rester quand même un petit peu discuter avec les amis du Twitch, mais je crois qu'il y aura pas d'after show, donc désolé s'il y en a pas. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.